fidélité au programme de VOA Afrique. Passez une bonne soirée en compagnie de VOA Afrique.
Bienvenue dans À votre avis sur VOA Afrique. Eric Madelakidza avec vous ce soir pour aborder ensemble la question sur la parité entre les hommes et les femmes dans les institutions électives. C'est Noumou Keïta sur la mise en onde. Au Kenya, les femmes ont réalisé une percée historique lors des élections du 9 août. 16 100 candidats étaient en lice pour briguer 290 députés, 47 sénateurs, 47 gouverneurs de comté et 1 450 membres des assemblées de comté. Les Kenyans ont décroché 26 sièges de députés contre 23 en 2017, 7 de gouverneurs contre 3 en 2017 et 3 postes de sénatrices, synonyme d'un pas supplémentaire vers la parité. Le nombre de femmes élues avait déjà progressé en 2017, toujours au Kenya, pour atteindre environ 20% de l'Assemblée nationale. Depuis l'élection de la première femme au Parlement en 1969, le paysage politique au Kenya est resté majoritairement masculin et l'application de la parité parcellaire. Deux invités sont en ligne avec nous pour en parler. À Dakar, l'historienne Penda Mbow. Bonsoir.
Bonsoir.
À Tunis, Frida Dahmani. Bonsoir.
Bonsoir.
Encore une fois, bienvenue. Nous aurons également les auditeurs en ligne pour leur réaction. Madame Penda Mbow, je commence avec vous. D'abord, quand on parle de la parité homme-femme, ça veut dire quoi?
La parité, c'est, en tout cas en Afrique au Sud-Sahara, c'est un phénomène que nous avons connu et dépassé historiquement depuis très très longtemps. Vous savez, déjà pendant la période précoloniale, il existait dans certaines sociétés africaines ce qu'on pourrait appeler, je rentre là, il y a beaucoup travaillé, le bicaméralisme, surtout dans les sociétés. Il existait des hommes jeunes, du bicaméralisme, une chambre des hommes composée d'hommes et une chambre composée de femmes. Et la femme n'a jamais été absente dans notre histoire de l'espace public. Ce n'est que plus tard, avec l'introduction des cultures ou des, si vous voulez, des modèles patrilinéaires liés à la foi aux religions monothéistes et à la colonisation, que la femme a perdu petit à petit sa présence au sein de l'espace public et dans la transmission des droits et des pouvoirs en Afrique. Mais depuis un certain temps, avec les changements qui sont intervenus et la démocratisation, parce qu'il ne faut pas oublier que les femmes ont beaucoup contribué au renouveau des principes démocratiques et du discours démocratique en Afrique, à partir des années 80 particulièrement, on a assisté à beaucoup de revendications, des revendications comme l'accès à l'éducation, accès à la terre, accès à la monnaie, pas la monnaie en tant que telle, mais disons au crédit, etc. Il y a plusieurs débats qui ont été menés et des conquêtes que les femmes ont pu, en tout cas, obtenir à travers le soir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des années 70, la question de la démocratie s'est posée avec acuité pour plusieurs raisons. D'abord, les femmes se sont substituées partout pour à l'homme pour régler la question de l'équilibre dans les sociétés en crise sur le plan économique, et c'était tout à fait normal qu'ils revendiquent leur part dans la gestion des affaires publiques. Ensuite, à cette période aussi, il faut admettre, au-delà de l'accès aux affaires publiques, et de nouveau du discours en tant que tel sur le plan démocratique, elles ont beaucoup participé à l'ouverture, au débat, et ce n'est c'est parce que les femmes ont changé, par exemple, la manière de voter qu'on a pu obtenir l'alternance en 2000 dans un pays comme le Sénégal. Et qu'est-ce qui reste ? Elles ont voulu aller beaucoup plus loin en disant que nous devons nous être représentés, bien représentés dans les instances de prise de décision, surtout les instances où il est question de gestion des collectivités locales et les instances comme les parlements, parce que ça, ils sont des assemblées où on est élu. Donc, l'élection est devenue un enjeu important pour les femmes et elles ont voulu vraiment être représentées au sein de ces institutions. Elle appelle que veut dire un nombre égal d'hommes et de femmes qui sont représentés qui, dans les parlements, que ce soit les assemblées, le Sénat ou encore les collectivités locales. Bon, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de choses à revendiquer, à remettre en question, des critiques que moi-même j'ai eu à faire par rapport à la loi sur la parité, parce que j'ai pensé qu'il faut absolument éviter que les véritables débats soient détournés. Parce que est-ce qu'en allant à l'Assemblée nationale, un nombre massif de femmes, ça veut dire que nous allons continuer les luttes pour l'égalité, l'égalité en droit, l'accès et même la remise en question de la gestion de la sphère familiale. Il y a beaucoup de débats qu'on a eu à mener ici, mais déjà le fait qu'il y ait un nombre critique de femmes dans les assemblées électives, c'est un pas important. Maintenant, il faudra aller plus loin que ces assemblées électives, que la représentation des femmes signifie transformation qualitative du statut de la femme et transformation au sein de la société.
Nous allons revenir justement sur l'application de cette loi au Sénégal qui institue la parité absolue entre les hommes et les femmes dans toutes les institutions partiellement ou totalement électives, comme l'Assemblée nationale, le Sénat, les conseils régionaux, municipaux, comme vous venez de le dire, et aussi jeter un coup d'œil sur le chemin à parcourir. Frida, vous avez suivi cette élection au Kenya. J'ai donné quelques chiffres là tout à l'heure. Que pensez-vous de l'émergence de candidatures de femmes au Kenya?
Elle était inéluctable parce que de toute façon, c'est le parcours auquel on va tous arriver. Enfin, tous les pays vont y arriver à un moment ou à un autre parce que les femmes aujourd'hui ont accès à l'éducation, ont accès à... sont aussi responsables de leurs décisions, etc. Il y a une certaine autonomie qui s'est installée, une indépendance, hein, un certain pouvoir économique aussi, ce qui fait que même si elles étaient déjà responsables de leur vie et très souvent responsables de famille, même si elles ne portaient pas le nom de mater familias, parce qu'on est dans un site parfois du système encore patriarcaux, les femmes, que ce soit au Kenya ou ailleurs en Afrique, vont de toute façon occuper la place politique, parce qu'aujourd'hui, occuper non dans le sens partagé, la place politique, dans le sens où on peut, les citoyens et les citoyennes sont tous deux responsables et concernés par les décisions qui touchent la collectivité.
Et comment se présente effectivement le paysage politique féminin chez vous en termes de parité?
Alors, en termes de parité, malheureusement, on est en risque actuellement. C'est-à-dire que nous n'avions pas de parité jusqu'en 2011. Il y a eu donc la révolution de 2011. Il y a eu donc un appel à des élections législatives. Et là, il y a eu la loi électorale qui a stipulé que la parité sur les listes devait être totale. C'est-à-dire à chaque fois, il y avait un homme, une femme, un homme, mais à égalité numéraire. Aujourd'hui, et ça a très bien fonctionné, mais ça n'a pas empêché que les femmes étaient sur une assemblée de 257 députés, elles étaient pratiquement au nombre de 80. C'est-à-dire qu'elles n'étaient, parce qu'il y a eu des désistements, parce qu'il y a eu des... et elles ont été appelées à d'autres fonctions, donc elles ont laissé leur poste à celui qui les suivait sur la liste, etc. Donc tout ça est intervenu, mais n'empêche que la représentation féminine était là, et on la voyait bien quand on voyait l'image de l'hémicycle. Aujourd'hui, nous sommes dans une conjoncture tout à fait différente. On a une nouvelle constitution depuis le 25 juillet dernier. Cette constitution a du mal à mettre la femme en danger, en réalité, mais les Tunisiennes en danger. Il a fallu revendiquer le fait que quand on est citoyen, on est aussi citoyenne pour avoir des femmes non seulement égales en matière de droit, mais qu'il y ait aussi une égalité dans le droit, c'est-à-dire que tous deux, les femmes et les hommes, les citoyens, les citoyennes, les Tunisiens et les Tunisiennes, participent, tous les deux sont responsables au même titre et ont des droits et des devoirs au même titre. ça a été une alerte qui a beaucoup secoué l'opinion publique, plus l'article 5 de cette nouvelle constitution qui ne fait pas du tout n'évoque pas du tout le côté civil de l'État. La nature civile de l'État a été occupée et l'État aujourd'hui doit tendre à œuvrer pour les finalités de l'islam. Et quelles finalités de l'islam? On sait qu'il y a la polygamie, enfin il y a des tas de choses qui sont contraires à tout ce qui est acquis de la femme tunisienne, alors qu'on vient de commémorer le 3 août le fameux code du statut du personnel qui a été promulgué en 1956 et qui depuis donne à la femme tunisienne les droits et les devoirs les plus larges qui ont été donnés à une femme dans la sphère du monde arabe. Donc nous sommes dans cette situation très précaire et nous attendons donc aujourd'hui une loi électorale qui devrait faire figurer cette parité, mais au risque qu'elle n'y figure pas. Parce que nous allons avoir, non pas un Parlement, mais on va avoir des conseils régionaux qui vont coopter des représentants qui vont arriver jusqu'au Parlement. Et dans ce processus, il n'est pas dit que la parité soit préservée.
Gardez la ligne, nous allons revenir sur justement les actions à mener. Nous avons quelques auditeurs en ligne, Madame Beau et Madame Frida, gardez la ligne, restez avec nous. Nous avons Charles Bazema. Nous avons Charles Bazema. Charles, bonsoir.
Oui, bonsoir à vous et bonsoir à vous invités.
Je vous écoute.
Voilà, moi vous parlez de la parité en Afrique. Moi je crois que la parité entre l'homme et la femme, et c'est vraiment, moi je ne crois pas à ça. Je ne crois pas parce que d'abord même pour que la femme même se lance dans la politique, son mari doit d'abord approuver. Mais si il s'oppose, en tout cas ça sera difficile. Soit elle met son foyer, soit voilà, en tout cas elle n'aura qu'un seul choix. Maintenant c'est là le vrai problème. Maintenant il y a un autre aspect aussi que nous pouvons dire, que la femme pourquoi la femme se lance dans la politique. Vous voyez, en Afrique la politique est considérée, c'est ambigu, comme c'est des gens, le politicien, voilà. Le politicien est considéré comme une personne qui ne tient pas parole. Voilà, qui ne tient pas parole. Mais là, quand les gens voient une femme, ok, la femme, elle est plus proche des enfants, voilà, elle est considérée comme la personne qui éduque les enfants. Voilà, c'est tout ça là. Bon, je ne dis pas que c'est forcément ça, mais les gens ont toujours une autre réalité envers les politiciens en Afrique. Parce que les réalités, le truc, voilà, 100%. Maintenant, pour ne pas prendre tout l'antenne, regardez encore dans les campagnes. Les hommes ils prennent les femmes en gris comme les détails électoraux. Les détails, pourquoi vous savez qu'en Afrique, on a l'habitude d'acheter les consignes des gens. Maintenant, ils savent que les femmes savent mobiliser. Maintenant, on les finance. Mais ces derniers aussi prennent de l'argent pour faire la campagne pour les hommes. Pas pourtant, si vous prenez mon pays, le Burkina Faso, les femmes sont 52%. Et puis, lors des élections tout dernièrement, nous avons vu une femme qui était présente, qui a posé sa candidature. Je crois que je me demande si elle a eu 0,5%. Voilà, mais là, c'est là aussi le problème.
Merci,
voilà,
Charles. Charles, merci.
On fait du temps les élections. Oui.
Merci beaucoup, Charles, pour votre contribution. Et bonne soirée chez vous. Il se trouve au Burkina Faso. Nous avons Anissé en ligne et nous a envoyé sa réaction via notre messagerie WhatsApp.
Bonsoir auditeurs et auditrices de la radio Voix d'Amérique. Moi je m'appelle Anissé Avgarine, je vous appelle depuis Bujumbura au Burundi. À mon avis, la décision prise par les femmes kenyanes est certaine. La partie en politique tambour est vraiment irréalisable. Chez nous, au Burundi, les voix se sont élevées pour vendre les mérites des femmes, ainsi la paix et l'inégalité dont elles sont victimes en vue de leur réhabilitation. Néanmoins, elle devrait surmonter beaucoup d'obstacles pour réussir son pari. Généralement, les postes réservés aux femmes font généralement croire qu'elles restent des instrices en politique, et cela n'est pas une particularité burundaise. Les hommes monopolisent des ministères régaliens, comme la défense, les affaires étrangères, la sécurité publique, les finances, l'administration territoriale, ceux qui sont au cœur de la souveraineté de l'État et de son fait.
Merci à Anissa qui se trouve à Bujumbura. Nous avons Alphonse Mbois qui est à Kinshasa, toujours via notre messagerie WhatsApp.
Alphonse Mbois qui est de Kinshasa, à votre avis, six États africains figurent parmi les 20 du monde ayant le plus de femmes au Parlement. Le Rwanda arrive en première position avec 61% des femmes députées contre une moyenne mondiale de 24%. Avec la Namibie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Mozambique et l'Éthiopie, ces pays, le Rwanda, marquent une longueur d'avance africaine en matière de parité. La constitution de 2003 au Rwanda a noté notamment établi l'attribution d'au moins 30% des postes aux femmes dans les instances de prise de décision de l'État. Un quota préconisé en 1999 par la déclaration de Beijing lors de la conférence mondiale sur les femmes est largement dépassé depuis au Parlement rwandais. Cette volonté...
Voilà, c'était Alphonse Mbouaki qui se trouve à Kinshasa. Nous sommes en ligne avec Annick Asso qui se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Annick, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Comment se présente le paysage politique féminin chez vous, en termes de parité, très brièvement?
D'accord. En termes de parité, je peux dire le partage du pouvoir et des responsabilités entre femmes et hommes en Côte d'Ivoire demeure très inégal. Les femmes sont souvent considérées comme des subalternes, confinées au secteur informel qui est non rentable. Les statistiques démontrent que les femmes sont encore sous-représentées dans les structures et les institutions publiques comme privées. Je prends l'exemple de mon service où nous sommes au nombre de, je dirais, 40. Il y a à peine 15 femmes, et je dirais même 50, 15 femmes et 35 hommes. Donc, voici un peu ce que j'avais à dire sur la parité au niveau de la Côte d'Ivoire.
Merci Annick pour votre contribution. Nous revenons vers vous à Pendambo. Le parcours politique des femmes est souvent semé d'embûches. Quelles sont les actions à mener pour équilibrer la balance?
Je voudrais réagir par rapport à deux choses. La première, c'est notre ami du Burkina Faso qui préconisait des limites à l'action politique de la femme. Il y aurait forcément un déséquilibre inutile entre la femme dans la famille et la femme dans l'espace public. Je répondrai simplement que quand il y a parité, il faudra qu'il y ait forcément un changement, une transformation à l'intérieur de la sphère domestique. Qu'il y ait plus d'équilibre entre l'homme et la femme dans la gestion de la sphère familiale pour permettre à la femme de dégager un temps lui permettant de s'occuper aussi de la plus grande famille qu'est la nation, le pays, la société. Je pense que ça, on ne peut pas refuser cela. La deuxième chose, c'est que si la parité dit égalité en droit et un respect mutuel, il faudra absolument qu'il y ait des changements partout et que l'homme et la femme, dans le rapport, il y ait plus de compréhension et d'équilibre et d'équité dans ces rapports-là. Ma deuxième réaction, c'est qu'en écoutant toutes les réactions et les rappels par rapport à certains pays, on parle du Rwanda, je peux parler de l'Afrique du Sud, post-apartheid, je veux parler aussi du Libéria avec l'élection de Mme Cyril Johnson. Ça veut dire simplement qu'en période de reconstruction, les femmes sont très nombreuses, que ce soit dans les pays post-conflit ou les pays post-apartheid, ou encore, on l'a vu au Libéria, Mme Shirley Simpson est élue pour reconstruire le pays et amener une certaine stabilité.
Ça, il y a aussi la Namibie.
Femmes, on fait appel à elle à chaque fois que nous sommes dans des difficultés. La parité, moi, je pense que ce qu'il faudra faire, c'est vrai, il faut voter des lois, mais voter des lois ne suffit pas de mon point de vue. Il faut œuvrer pour arriver à une véritable révolution au sein de la société, qu'il y ait plus d'équilibre. Que les femmes retrouvent leur statut d'antan, c'est-à-dire en Afrique, la femme est identifiée à la mer, au continent, c'est elle qui a trouvé l'agriculture, c'est elle qui a semé, c'est elle-même qui a imposé la sédentarisation, et c'est elle qui, à chaque fois qu'il y a une crise, qui apporte, ne serait-ce que dans le cas du secteur informel, de ses comptines, donc, qui apporte l'élément permettant à la société de survivre et de dépasser les crises. Ça veut dire que les femmes, avec leur méthode de gestion, leur expérience familiale, si on transpose tous ces éléments dans la sphère publique, on pourra gagner. Et cette résilience dont on parle tant en Afrique, elle est portée essentiellement par les femmes. Aller dans les instances de prise de décision ne suffit pas, parce qu'il faudrait, pas que ce soit les hommes qui utilisent les femmes aussi pour renforcer leur véritable pouvoir, ce que je crains. Au Sénégal, nous avons eu deux fois des femmes premières ministres, et ce sont les hommes qui ont décidé. Aujourd'hui, on a une femme qui a été à tête de liste de la coalition au pouvoir, Benno Bokkayakar. Est-ce que cette femme va diriger l'Assemblée nationale? C'est ce que nous allons observer et regarder dans les jours à venir. Et quand elle a fait une extraordinaire, une bonne campagne, dans les médias, on a commencé par dire que ce n'est plus Mme Touré, mais c'est M. Touré. C'est-à-dire, seuls les hommes sont en mesure, et ça c'est une vision, d'être capables, seuls les hommes peuvent faire de la politique, arriver à une certaine performance, et c'est ce plafond de verre qu'il faut absolument briser, que ce ne soit plus les hommes qui désignent, mais que ce sont les femmes qui arrachent le pouvoir, et ce sont les femmes, de par leur action, qui imposent ou imposent leur leadership à la société, et que tout le monde accepte que les femmes ont les mêmes compétences, les mêmes capacités, mais aussi le même patriotisme entre guillemets que les hommes pour faire changer les choses.
Merci.
Je termine, je dis un clin d'œil. Le Sénégal et la Tunisie ont beaucoup de ressemblances, parce que quand Bourguiba, un pays musulman comme le Sénégal, composé de musulmans, même si c'était dirigé par Senghor, élevait ou promulguait le code du statut personnel, ici aussi, Senghor était en train de promulguer le code de la famille qui a été étudié, qui est là et qui mérite d'être, donc ce n'est pas dépoussiéré, mais appliqué dans toute sa rigueur. Voilà.
Merci Frida, il nous reste moins de 2 minutes. Quelles sont les actions à mener pour équilibrer la balance?
D'abord, il y a à commencer très très jeune, à partir d'une formation, un accompagnement du genre, c'est absolument nécessaire, surtout dans des pays comme, non seulement en Afrique, mais également comme des pays comme la Tunisie, avec cette donne religieuse qui est quand même importante et qui freine, parce qu'on n'a par exemple pas d'égalité d'héritage. Donc si les égalités sont touchées, a fortiori la parité, il faut des lois et se battre pour les lois, c'est-à-dire avoir une société civile où en général les femmes sont assez actives, mais qui soient donc réactives en même temps et vigilantes. C'est vraiment une question de vigilance actuellement. Et insister pour avoir des droits et surtout oser. Les femmes sont, enfin du moins en Afrique du Nord, ne sont pas très portées vers la politique, elles sont portées, comme je le disais, vers la société civile. Il est temps d'inverser, parce que c'est par la politique, par le rôle qu'elles vont jouer sur la place publique, par leur prise de parole, qu'elles feront exister toutes les générations futures.
Merci Frida. Au rythme actuel des progrès, il faudrait plus de 140 ans à l'Afrique pour atteindre la parité des sexes, révèle le dernier rapport du cabinet McKinsey Global Institute. Les pays en Afrique qui comptent plus de parlementaires femmes, le premier c'est le Rwanda avec 61%, la Namibie en deuxième position 46,2%, le Sénégal en troisième position 42%, l'Afrique du Sud 42%. Et voilà, c'est les quelques chiffres que je voulais partager avec vous. Pendambo, merci beaucoup pour votre contribution dans cette émission.
Oui, c'est moi qui vous remercie.
Merci à Frida Darmani.
Merci à vous. Bonsoir. Béao.
Merci. Il y avait encore à dire. On reviendra sur ce sujet. Eric Manilakis a été avec vous. C'est Nomou Keita assuré la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Au revoir.